J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir. C'est la première fois que je viens ici chez vous. Comme d'habitude, c'est toujours un privilège que de pouvoir partager la parole ensemble. Et j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Si ce n'est pas le cas, je vais vous demander de l'ouvrir. Parce que j'aime que l'assemblée à qui je prêche interagisse, qu'on interagisse ensemble la parole et que ce que je dis, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, chers frères, J-4, vous êtes prêts? C'est la Saint-Valentin dans 4 jours. Chères sœurs, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes, chères sœurs? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. J'ai choisi ce passage exprès justement parce qu'il répond à plusieurs choses. Mais surtout, j'ai choisi ce passage parce que pour moi, c'est la plus belle histoire de la Bible. C'est mon passage préféré. C'est vraiment la... Voilà. C'est pour moi la plus belle histoire qui nous est racontée dans tout le canon biblique, dans toute la parole du Seigneur. Il ne s'agit pas d'un scénario ou d'une histoire comme Titanic ou de votre film préféré romantique, mais c'est une histoire qui dépeint très très bien la condition humaine et du cœur de l'homme et de la femme, avec un drame familial où l'on voit des personnes qui ressentent un vide intérieur. C'est des gens qui... vous verrez qu'ils ressentent un vide intérieur et qu'ils mettent tout leur espoir vers une autre personne pour être comblés, pour se sentir comblés, pour se sentir aimés et désirés. Et on voit combien dans cette histoire, Dieu est à l'œuvre dans les protagonistes de cette histoire. Et donc, c'est une œuvre, c'est une histoire d'amour qui comporte des rebondissements, qui comporte aspiration, désillusion et rédemption. Et donc, on va commencer d'abord par l'aspiration. C'est l'histoire d'un homme. Il s'est toujours senti rejeté parce que son père aimait davantage son frère. En effet, en grandissant, Jacob a toujours vécu dans l'ombre de son frère Ésaü. Et ne pas avoir les faveurs de Jacob, son père, l'a poussé à devenir un imposteur dans sa vie. Et donc, la Bible nous raconte, si vous ne connaissez pas l'histoire de Jacob, que Jacob a usurpé la bénédiction d'Ésaü, son frère, aîné. Et en général, la bénédiction, c'était réservée toujours à l'aîné d'une famille. Et donc, en faisant cet acte, ce vol de bénédiction, il commet l'irréparable. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un point de non-retour dans la vie de Jacob. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que Ésaü, son frère aîné, menace de prendre la vie, de tuer Jacob. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Jacob? Il n'a aucun autre choix que de s'enfuir de son foyer, de sa maison. Et Jacob, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il n'avait littéralement rien. Aucune femme, aucune terre, aucune richesse, aucune bête. Mais par la grâce de Dieu, il avait une seule chose. C'était l'amour de sa mère, Rebecca. Son père préférait Ésaü, mais sa mère, Rebecca, l'aimait. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, sachant que Jacob devait s'en aller? Elle l'envoie chez son frère Laban. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement Jacob doit partir de sa famille, mais il doit aussi quitter la seule personne qu'il aimait, sa mère. Et donc, c'est là, c'est le contexte où on arrive, dans lequel, où, au verset 14, un peu avant, on voit que Jacob arrive chez son oncle, Laban. Et donc, au verset 11, on lit ce verset. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Donc il arrive chez Laban, mais il voit en premier Rachel. Et donc on lit ce verset, Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. D'un côté, on imagine la joie de Jacob de pouvoir trouver sa famille, sa nouvelle famille. Et de l'autre côté, ses pleurs renvoient peut-être au constat qu'il fait, qu'il vient de quitter sa mère, son frère, son père, et qu'il donc fait face à une nouvelle famille, à une nouvelle personne qu'il ne connaît absolument pas. Ici, Jacob est vulnérable à tout point de vue. Et donc, ça fait environ un mois qu'il vit chez Laban et qu'il travaille pour son oncle en tant que berger. Et donc, on arrive, ça fait un mois qu'il est là, Laban lui propose un marché, un contrat de travail, entre guillemets. Au verset 15, il dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ?» Et donc, on lit ensuite la réponse de Jacob. Au verset 18. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban lui dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste de chez moi. » En fait, la première fois que j'ai lu cette histoire, j'étais assez jeune, ou les premières fois que je lisais cette histoire-là, je me suis dit, waouh, c'est beau. C'est beau ce que propose Jacob. Je disais à quel point l'amour que Jacob portait pour Rachel, c'était incroyable et c'était magnifique. Travailler 7 ans, pour pouvoir avoir Rachel. 7 ans, c'est long. C'est non seulement démontrer son amour, mais c'est aussi éprouver dans la durée l'amour qu'il porte pour Rachel. Pour moi, c'était la plus belle histoire de la Bible. Jacob était absolument fou, amoureux de Rachel. À coup sûr, il était amoureux. Il était totalement amoureux de Rachel, mais sa réponse démontre aussi sa folie. On ne dit pas que l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Mais rappelons-nous d'une chose. Ça fait un mois que Jacob connaît Rachel. Un mois. Et il est prêt à sacrifier, entre guillemets, 7 années de sa vie pour travailler et la voir. Mais surtout, souvenons-nous que ça fait à peine un mois qu'il vient de s'échapper de menaces de mort de son frère. Et donc, de ce point de vue, Jacob, il est totalement vulnérable, à tout point de vue. Et donc, la réponse de Jacob ici, le fait qu'il veuille travailler 7 années pour obtenir Rachel, démontre vraiment qu'il règle son problème d'une manière assez humaine. C'est-à-dire que Jacob, il a quitté toute sa famille, il a dû s'enfuir, et donc il ressent un vide intérieur parce qu'il a tout quitté, il est parti de chez lui sans rien. Et donc, il voit cette belle fille, il se dit, bon ben, c'est la personne que je veux épouser. Et donc, d'une certaine manière, Rachel est devenue son aspiration, son objectif, son rêve, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Rachel ? On sait que Rachel, c'était la benjamine de la famille chez Laban. On sait aussi que c'était une très belle fille. Et donc, lorsque j'affirme que Jacob était totalement fou amoureux de Rachel, laissez-moi vous dire en quoi il était frappé par la folie. D'après les experts historiques, on devait en payer environ 30 à 40 shekels un homme pour payer une femme, pour payer la dot. Et le salaire moyen ordinaire d'un travail lambda comme celui de berger, c'était environ 1,5 shekel par jour, par mois, pardon, 1,5 shekel par mois. En faisant les comptes, ce que propose Jacob, c'est 3-4 fois le montant normal. Et donc, ça montre que Jacob avait totalement perdu la raison en proposant autant d'années de travail et de labeur. Jacob était fou amoureux, mais Jacob était fou aussi. Mais il était amoureux. Verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. C'est beau, non? Il a travaillé 7 ans et ça lui parut comme quelques jours. Puis Jacob dit à Laban, verset 21, « Donne-moi ma femme car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Et donc, voilà, après cette année, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son beau-père, Laban, il lui demande « Est-ce que je peux maintenant consommer le mariage? J'ai fait ma partie du contrat. » Donc, est-ce que je peux la voir? Et donc, si on lit ce verset-là, on nous dit, mais c'est totalement légitime ce que demande Jacob, parce qu'il a rempli une fois de plus la partie de son contrat. Mais sachez que selon les experts juifs, cette requête de Jacob est totalement déplacée. Elle est totalement inappropriée dans la coutume juive. On peut croire que en faisant ces 7 années de dur labeur, Jacob est patient et il est persévérant. Mais lorsqu'on lit le verset 21, le narrateur veut mettre en lumière une chose. Il veut montrer à quel point Jacob est totalement émotionnellement dépassé par son aspiration et qu'il est sexuellement rattrapé par son désir. Parce que ça ne se faisait pas de dire « Je veux ma femme maintenant. » Et donc, ça montre aussi que Jacob aurait fait n'importe quoi pour avoir Rachel ou n'importe qui d'autre. Et donc, c'est de cette façon que Jacob gère ce vide intérieur lorsqu'il a quitté sa famille, en portant tout son amour vers Rachel. Il a trompé son père, il est haï par son frère Ésaü, mais en Rachel, la plus belle fille de la région, il trouve la personne qui comblera tous ses besoins, tous ses désirs, toute son aspiration, les plus profonds. Il se dit pour une fois dans sa vie, il va y avoir dans sa vie quelque chose de positif, une bonne chose qui lui arrivera dans sa vie, quelque chose qui fera de lui enfin un homme. Enfin, il connaîtra le succès, il se sentira digne et valorisé en tant qu'homme. Rachel comblera enfin sa vie qui a été misérable lorsqu'il a vécu chez sa famille. Après tout, j'ai envie de dire, ça reste humain de réagir de cette manière-là. Qui n'a jamais connu de déception, d'échec, de déconvenues, de mésaventures dans la vie? On connaît toutes ces choses-là. Ça se passera dans nos vies, quoi qu'il arrive. La question de savoir comment on comble ce vide intérieur, comment on réagit à ces échecs, à ces déceptions. Pour des gens comme moi, parfois, c'est de me jeter dans un paquet de chips. Pour d'autres, ça sera dépenser de l'argent dans le shopping. Pour certaines personnes, ça sera travailler dur au travail. Pour d'autres, c'est s'impliquer dans des relations sentimentales comme ça. Ça dépend de comment on gère les choses, les échecs, les déceptions. La quête de l'amour, c'est une très belle aspiration dans la vie. Trouver l'amour, c'est l'objectif de beaucoup de personnes. J'ai envie de dire la majorité des hommes et des femmes aujourd'hui. Mais le problème, c'est que chez beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, avoir cette aspiration, ils pensent qu'en trouvant l'amour, ça comblera beaucoup de choses, que ça résoudra beaucoup de problèmes. Alors que c'est pas vrai. C'est absolument faux si vous pensez de cette manière-là. Et l'histoire de Jacob nous le montre. Et donc, après l'aspiration, il connaît la désillusion. Et la désillusion de Jacob viendra de deux personnes, Laban et Léa. Souvenez-vous d'une chose, c'est que Jacob était un menteur, un imposteur, mais en Laban, il trouve son maître. Déjà, en acceptant de travailler les 7 ans, Laban profite de la situation. Il savait absolument que Jacob n'avait pas besoin de travailler 7 ans. Et donc, il connaissait la vulnérabilité émotionnelle de Jacob. Il aurait pu juste lui dire, travaille juste 2-3 ans et ça ira et je te donnerai Rachel. Mais il savait que Jacob était absolument à sa merci. Et il en a profité. Puis, après les années de dur labeur de Jacob, donc Jacob demande à pouvoir se marier à Rachel. Lisons la suite, au verset 22-23. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. À l'époque, un mariage, ça se déroulait de la manière suivante. Il y avait une procession nuptiale avec la cérémonie religieuse qui précédait une grande célébration qui durait 7 jours. Et en fait, là, on arrive au moment où voilà, Laban veut faire la fête. Et donc, à la fin de la fête, le marié pouvait prendre la mariée dans sa tente et consommer le mariage. C'est comme ça que ça se passait. Et avant que vous jugiez Jacob, laissez-moi vous rappeler 2-3 choses. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Non, mais c'est des choses pratiques, mais il n'y avait pas d'électricité. La mariée portait une voile. OK. Et après 7 jours de fête, les gens étaient un petit peu alcoolisés. Et donc Jacob pensait qu'il allait enfin s'unir à Rachel. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 25 ? Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Puis on lit au verset suivant. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aîné. » Jacob réalise qu'il s'est fait tromper. Et il réalise que Laban lui a joué un très mauvais tour. Et le texte ne le dit pas, mais je suis absolument sûr et certain que Jacob était en colère, qu'il était furieux. Mais il se soumet à la volonté de son beau-père. Lisez avec moi verset 28. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Pourquoi il se soumet à son beau-père ? Pourquoi il prend malgré tout Léa pour femme et il accepte de travailler 7 années de plus pour Rachel ? C'est très simple. Au verset 26, lorsque Laban répond à Jacob et qu'il dit « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aîné », cette phrase fait l'effet d'une bombe dans la tête de Jacob. Pourquoi ? Parce qu'il se rend compte, enfin, de ce qu'il a fait subir à sa propre famille. Il se rend compte qu'est-ce que ça fait que d'être trompé, que d'être menti, que d'être haï. Il se met donc à la place d'Isaac et d'Ésaü. Et donc, sa perspective change littéralement lorsqu'il comprend qu'il se fait avoir, tout simplement. Et donc maintenant, Jacob, il sait ce que ça fait que d'être à la place de son père et de son frère. Et l'ironie dans cette histoire, c'est que Jacob se fait tromper de la même manière dont il a trompé son père, Isaac. C'est-à-dire qu'il s'est fait passer pour une personne qu'il n'était pas, alors qu'ici, il pensait être avec une personne, mais qu'il n'est pas avec, en réalité. Et donc, sa désillusion est grandissime, elle est énorme. Parce que Laban a mis Léa dans ses bras, alors qu'il désirait Rachel. Pendant sept ans, il a travaillé dur pour avoir Rachel et il a Léa à la place. Et donc, Laban est cette source des désillusions de Jacob. Mais la deuxième personne qui est la source de la désillusion de Jacob, c'est Léa. À présent, il est marié à Léa. Léa, c'est juste une victime collatérale, j'ai envie de dire, de cette histoire. Mais elle reste la raison de la détresse de Jacob. Alors, que sait-on de Léa ? On ne sait pas beaucoup de choses, mais ça, c'est suffisant pour dire quelque chose. Au verset 16 et 17, lisez avec moi. Laban avait deux filles. L'aînée s'appela Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Donc, on sait deux choses sur Léa. Que c'est l'aînée et qu'elle avait les yeux fragiles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le narrateur compare les deux sœurs par des critères physiques, par leur apparence physique. Quand il dit que Léa a des yeux fragiles, qu'est-ce qu'il dit par rapport à Rachel ? Ben, il dit qu'elle est belle. Il ne dit pas Léa avait des yeux fragiles et Rachel voyait très très bien. Il ne dit absolument pas ça. Et donc, ce que le narrateur veut mettre en relief ici, c'est que Léa avait certainement quelque chose à ses yeux qui faisait qu'elle était peut-être un strabisme ou quelque chose qui faisait qu'elle était physiquement pas très jolie. C'est ce que le texte veut dire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Léa, ici, je pense, vu qu'elle n'était pas très belle, entre guillemets, a sûrement aussi grandi dans l'ombre de sa sœur, Rachel. Et c'est pour ça que, moi, je suppose que Laban a mis Léa dans les bras de Jacob, a trompé Jacob parce que il avait peur qu'elle devienne vieille fille. Et l'histoire nous dit au verset 30, Jacob s'unit à Rachel qu'il préférait même à Léa. Léa, c'est probablement mon personnage préféré dans toute la Bible. Léa, c'est celle qui est rejetée, ignorée, exclue. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est elle la véritable âme sœur de Jacob, parce que Jacob, lui aussi, il était ignoré, exclu et rejeté. Et on voit comment, justement, ici, Léa fait absolument la même chose que Jacob, c'est-à-dire en plaçant ses espoirs et son amour dans une autre personne pour se sentir comblée, pour se sentir aimée et désirée, alors qu'elle ressent un vide intérieur. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne reste absolument pas insensible à la peine, au malheur, à la tristesse de Léa. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que Dieu fait pour Léa ? Lisez avec moi au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Dieu permet ici à Léa de concevoir. Et à chaque fois qu'elle nomme son enfant, elle le nomme à partir d'un verbe en hébreu pour exprimer ce qu'elle ressent à ce moment-là lorsqu'elle enfante son bébé. On va donc lire les versets 32. Léa tomba enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera ». Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui donnai trois fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Et donc, aux yeux de la société, Léa, c'était la femme parfaite parce qu'elle donnait des fils à son mari. Mais Léa recherche désespérément l'amour et l'approbation de son mari. Et pour Léa, il n'y avait que les yeux de Jacob qui lui importaient. Et pour elle, c'était comme si elle ne se sentait que valorisée ou aimée si elle avait l'approbation de Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne l'aura jamais. Et l'une des leçons de cette histoire, c'est que quelles que soient nos aspirations dans la vie, quelles qu'elles soient nos aspirations, et surtout plus spécifiquement dans la recherche, dans la poursuite d'une relation amoureuse ou sentimentale, il y aura toujours des déceptions et toujours des désillusions. Pourquoi ? Parce qu'on est tous pécheurs. On tombera. On aura toujours des faillites. Même si vous trouvez l'âme sœur. Et je dis pas ça pour que vous soyez découragé si vous êtes célibataire ou quoi que ce soit, mais c'est une vérité. Je suis sûr que les gens mariés vous le confirmeront. Et ce qui est important pour moi de vous rappeler, c'est que lorsqu'on recherche justement cette personne que l'on veut aimer, et si on la trouve, sachez qu'elle ne vous comblera pas. Jamais de la vie, elle vous comblera. Bien sûr, elle peut vous apporter de la joie, du bonheur, tout ce que vous voulez, des choses positives, mais aucun être humain ne pourra jamais combler un vide intérieur que vous avez dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Et l'autre leçon que vous pouvez retenir, c'est que seul Dieu peut combler ce vide. Seul Dieu peut le faire. Vous le savez intellectuellement, théologiquement peut-être, mais laissez-moi vous dire en quoi c'est le cas. Parce que Léa, comme Jacob, connaîtra non seulement une désillusion, mais une rédemption. Comment est-ce que Léa connaît la rédemption ? Il faut juste voir comment Dieu agit en Léa et pour Léa. On remarque une progression intéressante dans la vie de Léa. Lorsqu'elle fait appel à Dieu pour que son mari l'aime enfin, en qui elle recherche sa valeur, son importance et un sens de la vie, elle porte finalement son espoir vers Dieu et non plus vers son mari. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, Léa appelle Dieu non pas par Elohim, un nom générique, mais par Yahvé. Yahvé, c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé au patriarche. C'est le nom par lequel il se révèle en tant que dans son alliance avec son peuple. C'est son nom personnel. C'est le nom qui implique qu'il est le Dieu du salut, le Dieu d'Israël. C'est celui qui intervient dans la grâce, dans la vie de chacun. Et donc, c'est une révélation totale pour Léa lorsqu'elle enfante son dernier fils, Judas, qui vient du mot « célébrer ». Pas de mention de mari, pas de mention d'enfant, juste une mention de Dieu. Verset 35. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, puis elle cessa d'avoir des enfants. Cette fois-ci, Léa a enfin compris. Elle a enfin compris qu'elle n'avait pas besoin d'avoir des enfants pour avoir les faveurs de son mari. Elle a enfin compris que ce qui importait, c'était les yeux de l'Éternel et non pas les yeux de Jacob, son mari. Léa avait un profond désir d'avoir l'approbation et l'amour de son mari. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'elle a réussi, entre guillemets, à transférer ce désir pour son mari à un désir pour l'Éternel, pour Yahvé, pour son Dieu, pour le Dieu de son peuple, pour le Dieu d'Israël. Et lorsqu'elle comprend que c'est à l'Éternel qu'il faut éprouver les désirs et son amour, ses aspirations et ses espoirs, c'est là qu'elle est totalement libérée et changée. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que Léa, elle n'a pas seulement expérimenté une transformation spirituelle, mais pour moi, elle expérimente la plus belle histoire d'amour dans la Bible. L'amour que Dieu porte pour elle. Et laissez-moi vous dire pourquoi il s'agit de la plus belle histoire d'amour de la Bible. Léa vit une transformation spirituelle le jour où elle enfante Judas. Judas, le narrateur, il savait absolument qui était Judas. Les lecteurs, les auditeurs savaient qui était Judas. Et vous, est-ce que vous savez qui est Judas ? Si vous ne savez pas qui est Judas, laissez-moi vous dire qui était Judas. On va lire. Je vais vous lire Genèse 49. Il y a une prophétie qui annonce la venue du roi, du Messie, par Judas. C'est écrit « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette prophétie de Genèse 49 ? Laissez-moi vous résumer l'histoire de Genèse 29 que l'on vient de lire. D'un côté, il y a une très belle jeune fille que tout le monde admire, que tout le monde trouve belle. Et de l'autre côté, il y a une fille qui est laide, qui est rejetée, qui est exclue, qui est ignorée. Et Dieu porte son regard non pas vers celle qui est belle, mais vers celle qui est mal aimée, rejetée et exclue. Et il dit à cette jeune fille, il dit à Léa, « Léa, c'est par toi que Léa, tu seras la mère du Shiloh, du Messie, du Sauveur, de Jésus-Christ. » En effet, Jésus, il vient de la tribu de Judas, dont la mère est Léa et non Rachel. Léa était aimée par personne, elle était rejetée. Mais elle a été aimée par le Seigneur, par l'Éternel. La parole nous dit que Dieu est notre époux, qu'il est notre véritable amour, que seul lui nous comblera parce qu'il s'est sacrifié pour nous en tant que mari. Et cette histoire, c'est la plus belle histoire d'amour dans la Bible parce qu'elle nous montre que cette histoire de Léa, c'est une illustration de comment Jésus sauve le monde et sauve l'humanité. Dieu agit dans la vie de Léa, une fois de plus qu'il l'ignorait, l'exclut et l'a rejeté. Parce que l'évangile requiert à ce que chaque personne, chaque être humain soit humble, reconnaisse sa faiblesse, reconnaisse sa laideur devant Dieu. Parce que son sauveur nous a donné Léa à travers Judas. Et Dieu sauve celles et ceux qui admettent justement leur laideur, leur péché. C'est comme ça qu'on a le salut. Et c'est de cette manière que Dieu agit. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce et non un Dieu de la loi. Et donc si, par le passé, vous avez été rejeté par une personne que vous pensiez aimer, ou que vous pensiez que cette personne changerait votre vie, Dieu vous comprend. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son fils pour que son fils puisse vivre une vie marginalisée, d'exclu, de rejeté et d'ignoré. Et si vous sentez laid, pas seulement extérieurement, mais intérieurement, si vous sentez cette laideur en vous, sachez que Jésus a été décrit dans ces mots suivants. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mais Jésus a eu toute l'approbation de son Père. Et donc, si vous placez votre foi, votre confiance en Jésus, la justice de Jésus est vôtre. Même si aux yeux du monde vous paraissez être des Léa, aux yeux de Dieu, vous êtes comme Jésus. Si vous voyez ce que Dieu a accompli pour vous à travers Jésus, vous serez accepté et donc vous connaîtrez, vous expérimentez l'amour inconditionnel de notre Seigneur. Et donc, si vous expérimentez cet amour, vous pourrez vivre cette transformation spirituelle et comme Léa, j'espère de tout mon cœur que vous pourrez aussi dire « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » Voilà, je viens de vous raconter la plus belle histoire de la Bible. Priez avec moi. Seigneur, merci pour cette histoire. Merci parce que parfois, on ne comprend pas les choses. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on connaît des déceptions, des échecs. On ne voit pas pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Mais toi seul, tu sais. Mais dans ce cas-là, aide-nous à avoir la foi, la persévérance, la fidélité envers toi pour que nous puissions nous attacher à cette vérité que tu nous aimes malgré qui nous sommes, malgré ce qu'on a fait dans notre passé, malgré ce que l'on fait aujourd'hui, malgré nos péchés, malgré notre laideur. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à sentir ton amour, que l'on puisse savoir que tu nous aimes, Seigneur, et qu'on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, que ce soit une belle fille, un beau garçon, que ce soit notre mari, notre femme. C'est pas ces personnes-là qui nous combleront, mais c'est ton amour, c'est Jésus, parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Et voilà, cet après-midi, je te demande que tu puisses aider chacun d'entre nous, chacune des personnes présentes dans cette salle, à nous souvenir de ça. Et je te demande que tu puisses nous écouter, entendre nos prières, et surtout que tu puisses l'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, je te demande toutes ces choses. Amen.